pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur ce plateau depuis le Jardin des Tuileries pour Jardin Jardin, 18e édition du nom des jardins. Dans ce jardin historique, nous sommes à l'ombre des arbres, des marronniers en l'occurrence, et nous n'allons pas parler du classement des villes les plus vertes, qui pourrait être un marronnier à sa manière. Nous allons parler d'un sujet tout autre aujourd'hui, végétal et digital, les nouvelles approches et les nouveaux visages des paysages urbains. Cette émission a lieu grâce au concours de Cité Verte Europe, Cité Verte Europe qui est un programme de l'Union européenne avec l'aide de Valor, Valor qui en est le correspondant en France. Et Valor, quelques mots, c'est l'interprofession du végétal, de la fleuristerie et du paysage. Alors, végétal et digital, qu'y a-t-il en commun à part la rime et la dernière syllabe? Eh bien, nous allons le voir, nous allons en tout cas l'illustrer avec trois intervenantes et intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Laure Rollin. Marie-Laure, vous êtes pépiniériste, productrice. Vous dirigez les pépinières Javois et vous êtes par ailleurs membre du bureau de Verdir. Verdir, qui est la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et de la pépinière. Nous avons également à mes côtés Hicham Ennakla, qui est fondateur de 420arbres.fr, qui est blogueur et qui est aussi créateur de Daily Green, la newsletter de la nature en ville. Et enfin, last but not least, Pascal Goubier, qui est directeur des opérations de Green Hill. J'espère que la prononciation n'est pas trop approximative. Alors, on parle beaucoup de digital et probablement que nos rapports avec ce dernier ont évolué à la faveur ou à cause, je ne sais pas, de la pandémie de Covid-19, évidemment, que nous avons vécu. Nombreux sont celles et ceux qui, dans les administrations et les entreprises, ont appris à se servir des visioconférences, des Zooms, des Teams et d'autres outils qui, pour un certain nombre, était malgré tout assez difficile d'accès il y a encore peu d'années, en l'occurrence moins de 3 ans. Nos métiers, les métiers qui vous réunissent tous les trois, les métiers du végétal, du paysage, pour ne pas dire de la nature en ville, qui sont rassemblés ici dans cette grande fête qu'est Jardin Jardin, ont aussi à voir avec ce digital. Et l'objectif de nos 45 minutes que nous allons passer ensemble, c'est de voir de quelle manière est-ce qu'ils s'opposent, est-ce qu'ils sont complémentaires et quelles sont les possibilités qui sont offertes à nous, mais aussi à celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent nous rejoindre en podcast en liant le végétal et le digital. Alors tout d'abord, n'en déplaise à la bienséance Marie-Laure, je vais commencer par Hicham. Parce qu'Hicham, vous avez un parcours tout à fait remarquable et nous nous sommes connus, non pas par un outil digital, j'en entends d'ici tout de suite, du type Mythique ou Tinder, nous nous sommes connus par LinkedIn. LinkedIn, ce réseau professionnel sur lequel j'ai vu votre activité il y a bientôt 3 ans. Nous étions à l'époque relativement peu d'abonnés. Je crois que Pascal, sans que nous le sachions, l'était déjà. À Daily Green, la nature en ville, cette newsletter que vous aviez lancée. Et vous diffusiez les résultats de ce qui, pour moi, s'apparente à une veille très structurée, d'exemples d'opérations qui visent à valoriser la nature dans la ville, que ce soit en France, mais aussi à l'international. J'ai trouvé ça extrêmement remarquable. Et puis, une fois que je me suis abonné, j'ai trouvé que vous en étiez le rédacteur et que vous aviez une activité totalement opposée, ou en tous les cas, sans lien apparent avec le sujet dont vous faisiez la promotion. En l'occurrence, vous travaillez dans une entreprise de coworking, dans l'immobilier. Alors même si, sur les antennes de Radio Immo et de Radio Territoria, nous évoquons souvent les relations fécondes ou les difficultés entre l'immobilier et la nature, je me suis dit, c'est quand même assez incongru. Qu'en est-il? Et puis, nous avons appris à nous connaître et je suis très heureux de vous avoir avec nous ici. Vous nous venez de Montpellier, tout spécialement, donc un grand merci. Hicham, pour rentrer dans le vif du sujet, comment en êtes-vous venu au sujet de la nature en ville et quel est votre parcours?
Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation, je suis ravi. Alors, j'aime dire que je suis un autodidacte, même si je suis allé un petit peu à la fac et que ça m'a plus donné le goût de l'écriture et de la lecture plutôt que l'intérêt pour les cours. J'ai travaillé une 20aine d'années dans le digital, et 10 ans dans les solutions digitales et applications pour l'immobilier résidentiel. Et puis, dans les 5 dernières années, j'étais responsable de la stratégie digitale d'une marque de coworking qu'on a développée à l'échelle nationale. Moi, mon parcours, en fait, je suis né à la campagne, donc une enfance à la campagne, avec un père pépiniériste et une adolescence en ville, avec un goût fort pour une culture qui s'appelle le hip-hop. Et qui a comme leitmotiv recycler les énergies négatives en énergie positive et créative. Et puis vient le digital, Internet, qui vient un peu bouleverser, révolutionner notre façon de communiquer, de partager des bases de connaissances. Et puis surtout aussi de faire du business, d'envisager de nouveaux rapports dans le commerce. Voilà, aujourd'hui, je suis porteur d'un projet qui s'appelle 420 Arbres et Daily Green reste un side project, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours une activité à côté. Pour moi, c'est un outil de veille qui me permet d'avoir le maximum de liberté sur le choix des sujets. Et voilà où j'en suis.
Alors, Daily Green, c'est effectivement une newsletter, un compte sur LinkedIn notamment, sur Twitter également. Je vous invite à vous abonner. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce que je ne savais pas lorsque nous nous sommes parlé avant cette émission, très brièvement je dois le dire, parce que nous tenons à garder de la spontanéité, cette activité, ce side project, comme le sidecar, ce projet à côté de votre activité principale, je traduis parce que tout le monde n'est pas anglophone et nous aimons aussi traduire et faire des passerelles, vous le menez depuis 2010. D'abord avec un
blog.
Un blog. Oui. Voilà, ça paraît très, très ancien comme terme. Qui a encore des Skyblogs ou autre? Et ce blog, vous continuez de l'alimenter?
Alors, je continue à l'alimenter. En fait, il s'est un peu métamorphosé sur la newsletter. Pourquoi? Parce que c'est un intérêt pour le lecteur. Il reçoit, c'est un engagement. Il reçoit cette newsletter directement dans sa boîte mail. Mm-hmm. Le média, pour moi, ça reste la newsletter.
Et alors, vous parliez de veille. Concrètement, est-ce que c'est une veille un peu spontanée, intuitive, où vous avez calibré à la fois des sujets que vous suivez, des mots-clés par exemple, et puis d'autre part des sources de référence que vous avez identifiées au fil des années, ou est-ce que voilà, c'est un mélange des deux entre l'intuition, comment est-ce que vous la structurez?
C'est simplement, en fait, toute la semaine, je lis énormément d'articles que je mets de côté. Et le week-end, je prends le temps de bien les lire pour en rechercher la source. Parce que pour moi, c'est important de savoir exactement si les faits sont avérés. J'essaye au maximum de sourcer ma documentation. Donc voilà, non, c'est structuré sans vraiment l'être. J'ai des outils digitaux qui me permettent de gagner du temps dans l'agrégation des données, enfin des sources, mais je n'ai pas vraiment de structure. Voilà.
En tous les cas, le résultat est remarquable. Je vous invite à suivre Daily Green sur les réseaux et vous l'apprendrez rapidement, je n'ai pas l'habitude des flagorneries, c'est sincère. Et justement, je me tourne vers Marie-Laure. Marie-Laure, vous êtes ingénieure, agronome spécialisée en horticulture et paysage, donc les sources, ça vous interpelle. Marie-Laure, vous dirigez une entreprise familiale qui a été créée par vos parents près d'Orléans. Comment est-ce que ça résonne pour vous, cette notion de veille et de transmission d'informations par le digital pour l'ingénieur et la pépiniériste que vous êtes?
Alors aujourd'hui, dans l'expérience que j'ai pu avoir de mes parents, de ce que j'ai pu vivre à la pépinière et de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, le digital nous a ouvert un champ des possibles assez incroyable. La transmission de l'information se faisait en bouche à oreille, par des livres, dans des bibliothèques, par un savoir et des sachants. Ça, c'était la génération de mes parents. Je me suis formée et durant cette formation, on a pu découvrir aussi ces outils digitaux qui nous ont ouvert ce champ des possibles complet et qui fait qu'aujourd'hui, toute cette transmission de savoir, cette connaissance qui est la nôtre du végétal, on peut beaucoup plus facilement la faire connaître, la transmettre, échanger, partager. Ça nous ouvre vraiment des horizons qui n'étaient absolument impossibles jusqu'à présent.
Alors, je précise que vous avez, en plus de votre activité, une collection végétale, laquelle? Et est-ce que ça a un impact, cette transmission? Parce que c'est une somme de connaissances que vous avez là, dans votre jardin, j'en dis pas plus.
Alors oui, je suis donc pépiniériste, productrice de plantes grimpantes et de clématites, mais à mes heures perdues, je suis collectionneuse de clématites. Et là, le digital également, ça a été une vraie source de diversité botanique dans mon jardin. Je me suis dit, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, comment est-ce que vous rencontrez des passionnés de clématites des quatre coins du monde? Mon père, à l'époque, il fallait qu'il prenne l'avion, découvrir de bouche à oreille des personnes, peut-être dans des jardins, quelque part dans le monde, passionnées de clématites. Eh bien, pour ma part, eh bien, réseaux sociaux, et de cette manière-là, j'ai pu rencontrer des personnes partout dans le monde. Après, aller les voir pour de vrai, échanger du patrimoine génétique, agrémenter ma connaissance aussi du genre clématite, qui est un genre super, super vaste.
Combien il y a d'espèces à peu près dans le genre clématite?
Alors, on estime à peu près 400 espèces recensées pour autour de 4000 variétés qui seraient existantes dans le monde aujourd'hui.
D'accord, et il n'y a pas de recensement exhaustif en un seul endroit, sinon ce serait trop facile.
Eh bien, presque si. On a en fait donc toujours ce digital, un vrai outil. Toutes ces personnes qui collectionnent ces clématites, qui ont ce savoir de la clématite, on a une base de données qui est basée en Angleterre, c'est l'université de Yule en Angleterre, qui a construit une base de données qu'on incrémente tous au fil des découvertes de clématites. Donc oui, on essaye de construire, il y en a une base de données qui s'incrémente.
Alors merci Marie-Laure. On note dans votre propos comment le végétal vous a aidé à construire une transmission intrafamiliale, mais aussi à consolider votre hobby, qui est très lié à votre métier, de collectionneuse. On va reprendre tout à l'heure le sujet professionnel. Avant cela, je voudrais qu'on écoute Pascal. Pascal, vous êtes ingénieur forestier de formation et vous êtes bien connu des responsables et des directrices et directeurs de la nature en ville, puisque vous avez une expérience de 30 ans, tout pile, cette année, dans les collectivités, en particulier dans le département du Rhône et dans l'agglomération de Lyon. Et puis, au-delà de cela, vous avez présidé ces dernières années Ortis, association des directeurs de la nature en ville et du paysage, dont vous avez été un membre actif depuis de nombreuses années. Et puis aujourd'hui, depuis avril 2023, vous changez de vie. Vous devenez directeur des opérations de Gris Hill. J'espère encore une fois que la prononciation est utile. Nous connaissions, mais nous avons des attaches territoriales voisines entre Auvergne et Rhône-Alpes. Là n'est pas le sujet, mais je ne savais pas. Vous avez commencé votre carrière les deux mains sur un clavier, avec un écran noir et blanc, avec ce que l'on appelait le DOS, que les moins de 30 ans peuvent ne pas connaître. Alors, racontez-nous ce temps, ces prémices, comment est-ce que ça a démarré et comment est-ce que ça résonne aujourd'hui avec votre activité?
Alors oui, ça a démarré même plus tôt que ça, où je crois que mon père a eu la première calculatrice Hewlett-Packard qui existait au monde, ou presque, ou dans les premières, et donc j'ai commencé avec ça. Et être content de fabriquer une sinusoïde après des heures de programmation sur un ordinateur et de faire une courbe de Gauss ou de faire un cosinus ou un sinus, c'était un exploit. Mais assez vite, effectivement, j'ai été attiré par cette technologie permettant de démultiplier des choses, même si au début, tout n'était pas si simple. Hein. L'ordinateur portable, le premier que j'ai eu pour le travail, faisait 17 kilos. Donc 17 kilos, c'est portable, ouais, mais,
oui,
mais
voilà, transportable.
C'est portable. Effectivement que la première société dans laquelle j'ai travaillé qui s'appelait Arbre Geste, dont j'étais le directeur, visait à conseiller les collectivités locales pour la gestion de leur patrimoine végétal en le numérisant. Alors c'est ce qu'on appelait numériser à l'époque, mais finalement c'était l'invention de ce qu'on appelle tous aujourd'hui du SIG, un système d'information géographique, qui est dans le langage courant dans les collectivités aujourd'hui. À l'époque, voilà, on faisait beaucoup d'efforts pour arriver à tracer des lignes, des points et des surfaces dans un écran noir et blanc ou avec quelques couleurs. Et c'était déjà finalement des outils de fabrication de bases de données cartographiques pour inventorier les arbres.
Alors on va revenir à Gris Hill dans quelques instants. Comment est-ce que vous voyez des initiatives comme celle du side project d'Hicham, Daily Green, la nature en ville? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez aussi accumulé énormément de données, connu beaucoup de professionnels en matière notamment de gestion du patrimoine arboré, mais plus globalement de nature en ville?
Alors ça m'inspire beaucoup parce que moi aussi j'ai eu pas mal de side projects, et moi aussi à la fois comme mes deux voisins, ils étaient très proches de mon métier principal. Mon épouse n'a d'ailleurs jamais compris comment ma passion pouvait être la même que mon métier. Donc c'était toujours autour des arbres. Il fallait que les arbres soient jamais bien loin. Donc effectivement, j'ai une accroche très forte autour de ça. Et finalement, tout le reste ne sont que des outils, soit de communication, soit d'amélioration de connaissances et d'accumulation d'un certain nombre de choses qui m'ont peu à peu amené à développer soit des intranets, soit des outils métiers qui permettaient finalement peu à peu d'agréger ces connaissances. Connaissances qui, il faut le dire, n'arrivent plus à être agglomérées juste par des humains. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Aucune des collectivités de France ne met les moyens nécessaires en hommes pour aller superviser le nombre d'arbres qui savent planter. Donc on sait les planter, mais on ne sait plus les suivre. Et donc les outils qu'on est en train de développer nous permettent de pallier à ça, d'avoir des meilleures connaissances autour de ces sujets-là.
Alors justement, la connaissance, on va y venir. On va commencer par l'outil d'Hicham, 420arbres.fr, je crois. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Et puis on va avoir la question de M. Bourret. Comment ça marche ? Et pour qui faites-vous cette solution ? Je vous laisse répondre dans le désordre, ça n'est pas un quarté. Qu'est-ce que c'est 420 arbres ?
Alors, c'est une application. En fait, notre objectif, c'est de diagnostiquer les espaces disponibles dans les domaines privés. Donc, notre cible va être principalement les copropriétés. Donc, on va détecter les espaces disponibles et mettre à disposition un outil d'aide à la décision qui est sous forme d'une application et qui est destiné aux copropriétaires pour les intégrer dans la plantation de leur résidence. C'est-à-dire, pour nous, c'est important, vu que finalement, c'est les clients finaux, c'est eux qui vont payer, c'est de les intégrer dans ces projets de végétalisation de leur résidence. Donc voilà, une application, un moteur de recherche qui va permettre de fournir l'essence la plus appropriée au sol et à différents critères comme les sols, le réchauffement climatique, s'ils sont résilients dans 10-20 ans. Donc c'est pour ça que pour nous, le digital est extrêmement important parce qu'elle va nous permettre de mettre de la base de données, de la connaissance à jour en temps réel et de faire évoluer. Et une fois que les copropriétaires ont fait le choix, on va pouvoir sortir une sorte de synthèse et envisager un projet paysagiste et donc du coup planter dans la résidence. Donc c'est très intéressant parce que sur les précédentes conférences, on a abordé ce sujet-là de ces espaces disponibles en ville qui sont majoritairement privés.
Oui, on citait l'exemple du Grand Lyon ou de Nantes. On oscille entre, suivant les statistiques et suivant l'échelle, entre 50 et 80% des espaces d'une ville ou d'une agglomération dits de nature qui appartiennent au domaine privé. Concrètement, Hicham, juste une petite chose, 420 arbres, à quoi est-ce que ça fait référence ?
Alors, on voulait une petite histoire autour de 420 arbres. 420 arbres, c'est le nombre d'arbres par habitant sur la planète. En fait, le magazine nature.com avait publié en 2015 le nombre d'arbres présents sur la planète, en fait, qui représente plus d'arbres. Enfin, excusez-moi, il y a plus d'arbres sur Terre que d'étoiles sur la Voie lactée. Ça permet vraiment de se souvenir. Et donc, du coup, en divisant le nombre d'arbres présents sur la planète par le nombre d'habitants de terrain, on tombe à 422 arbres par habitant. Et on met ça en parallèle. Aujourd'hui, il y a des données qui disent que le nombre d'arbres en ville représente 12 arbres par habitant. Notre objectif, c'est d'aller atteindre le 422 arbres par habitant en ville. Donc voilà, ça fait une petite histoire. Mais l'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner la ville dans la végétalisation avec élément majeur l'arbre. Voilà.
Et alors concrètement, en quelques mots, comment est-ce que ça fonctionne pour les copropriétaires ? Quelles sont les données dont vous disposez, auxquelles on peut accéder dans l'application et quelle est notre interaction ?
En fait, simplement, c'est des données qu'on récupère. Alors, on a actuellement plusieurs sources et on discute justement avec des projets d'État comme le CEREMA, Sésame, Floriscope. J'ai eu des discussions avec eux. L'idée, ça serait pourquoi pas demain avoir la même base de données pour pouvoir vraiment croiser les mêmes données à la fois sur le domaine public et le domaine privé. Et en fait, on va pouvoir en 3-4 clics pouvoir avoir une sélection d'arbres proposés et pourquoi pas demain intégrer de l'intelligence artificielle avec des algorithmes. Le projet évolue. Nous avons aujourd'hui 20 résidences pilotes à Montpellier par le biais d'un syndic qui nous fait confiance et sur lequel on va travailler dans les prochains mois pour fournir l'outil le plus optimisé pour les copropriétaires et bien sûr pour les syndics.
Et donc Floriscope, outil développé par Planté Cité avec le soutien de l'interprofession Valor et Sésame du CEREMA qui se Marie, par le biais de Plantes et Cités, avec l'ADEME, pour ce tout nouveau projet AVEC, qui a été lancé il y a quelques jours, adapter le végétal au climat de demain. Nous en entendrons sans doute parler. Pascal, même tarif, qu'est-ce que Green Hill, après toute cette attente, c'est pratiquement 20 minutes, nous parlons de Green Hill, mais qu'est-ce que c'est concrètement que cette entreprise dont vous avez pris la direction en France?
Alors Green Hill, c'est quelque part, le résultat, c'est l'outil que j'aurais rêvé d'avoir comme gestionnaire d'arbres depuis 30 ans. Et la façon de faire, c'est une société qui digitalise la ville, récupère ses quantités de données digitales et refabrique par du machine learning et de l'intelligence artificielle les arbres, donc refabrique des jumeaux numériques des arbres à l'identique. Donc vous prenez les marronniers qu'il y a là, je passe avec un véhicule, je scanne ces arbres et je suis capable de refabriquer au centimètre près la totalité de cet arbre dans toutes ses dimensions, donc la quantité de feuilles, de branches, de troncs. Une fois que j'ai fait ça, je fournis cette base de données et l'outil de gestion qui va avec, qui s'appelle une plateforme en full web, au gestionnaire. C'est-à-dire que le gestionnaire se retrouve donc, imaginons qu'on ait fait ici le jardin des Tuileries, se retrouve donc avec l'ensemble de cet ensemble d'arbres, avec la totalité de toutes les caractéristiques de ces arbres. Ce qu'aucune aujourd'hui collectivité, quasiment au monde, ne dispose, peut-être sauf Singapour, mais ça veut dire qu'en temps réel ou presque, en une seule fois et en une seule saison, je suis capable d'aller donner un état des lieux d'un patrimoine complet à une collectivité. Et sur cette base-là, je suis capable d'aller observer tout un tas de choses autour de ces arbres-là. Alors bien sûr, les comportements physiques, hein, ce qu'on appelle les mesures dendrométriques, quelle taille il fait. Alors là, c'est centimétrique, hein, c'est-à-dire que là aussi, personne n'a normalement ces dimensions-là centimétriques. Moi, je les ai. Donc, je suis capable de vous dire le diamètre du tronc, bien sûr, mais la hauteur totale. Mais au-delà de ça, je suis aussi capable d'aller calculer par des algorithmes tous les services écosystémiques rendus sur ces arbres-là. Donc, combien ça a absorbé de CO2, combien ça produit d'oxygène, combien ça d'eau évitée dans les réseaux. Enfin, vous connaissez, je pense, l'ensemble des services écosystémiques. Mais voilà donc l'ensemble de ce qu'on peut produire avec ça. Et ça, c'est en les ayant vus juste une fois. Et on est capable de comparer chaque arbre à la cohorte des arbres de la même espèce. Donc si je prenais le marronnier d'ici, eh ben, les marronniers, par rapport aux autres marronniers du jardin des Tuileries, ils se comportent comment? Il a plus de feuilles, il a moins de feuilles, etc. Et puis si je repasse le voir une deuxième fois, ben, j'ai le début d'une histoire. Je suis capable d'aller dire il a grandi, il n'a pas grandi. Il a grandi en diamètre, mais pas en hauteur. Il a mieux grandi que ses copains d'à côté, etc., etc. Et quand on multiplie ça ben, par le nombre, qui est vraiment le principe même de la data, hein, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, et que je vais avoir ben, tous les arbres de la région de Paris, ou de la France, ou du monde, demain, les fameux 220 par habitant d'Icham, et que moi je les aurais tous scannés, bon, je ne prendrai pas les forêts peut-être, pour l'instant.
Ah oui.
Ça veut donc dire que je vais être capable d'apprendre de mon système des choses extrêmement précises qu'on ne sait pas dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais être capable de dire l'ensemble des marronniers, si je reprends ce même exemple, l'ensemble des marronniers de la région parisienne souffrent de la chaleur, mais pas ceux de Lyon ou pas ceux de Nantes. Parce que ben, peu à peu, je vais accumuler ces bases de données, ces connaissances et surtout cette connaissance d'évolution. Donc finalement, une sorte de carte vitale de l'arbre, arbre par arbre, mais en plus, la globalisation de ces données me permettant d'aller en sortir, soit pour le gestionnaire, des outils de diagnostic, d'analyse. Alors bien sûr, autour de la sécurité, hein, je ne l'ai même pas dit, mais c'est quand même le premier critère sur lequel il est demandé d'avoir des éléments.
Sécurité sanitaire des arbres, alors, eu égard à la taille des charpentières, etc.
Voilà, ou sécurité des gens qui passent dessous, finalement. Que les arbres tombent, après tout, ça ne gêne pas grand monde, sauf si ça tombe sur quelqu'un. Mais c'est peut-être un choix politique qu'il faudra qu'on fasse à un moment donné. C'est peut-être d'emmener les arbres au bout de leur vie, puisque c'est là où ils produisent le plus de services écosystémiques, et de protéger la zone. Dans le jardin des Tuileries, peut-être que s'il y avait un arbre vraiment dangereux, on met une clôture autour, les gens n'y vont plus et on laisse vivre sa fin de vie. Peut-être que ça ne serait pas complètement délirant, enfin, ça serait même certainement fort intelligent. Et donc peu à peu, on va pouvoir arriver à ça. Et puis le deuxième sujet, c'est plutôt autour des décideurs. Combien de services écosystémiques on perd chaque fois qu'on va enlever un arbre, et en combien de temps et en combien d'années on pourra le récupérer. Alors voilà, des gens bien sachants me diront, bah, c'est facile, il suffit de prendre l'année de l'arbre, et dans 100 ans, l'arbre de 100 ans, il suffira d'attendre 100 ans pour qu'il refasse la même chose. Bah, peut-être que ce n'est même pas sûr, puisque les changements climatiques aidant, mais surtout, on pourrait choisir les essences. C'est-à-dire que peut-être même en fonction de la production qu'elles sont capables de faire sur ces services.
Donc c'est un système qui vous permet de compiler énormément de données, mais aussi, au-delà de la compilation de connaissances, d'en avoir de nouvelles qui permettent de mieux gérer le patrimoine et de prendre des décisions éclairées. Merci à chacun. Ça n'est absolument pas la fin de cette émission, c'est la fin de la première partie. Et avant d'écouter Marie-Laure nous parler des évolutions de son métier par le biais du digital et puis d'élargir un peu le champ de vos métiers respectifs, écoutons une pause musicale. Parce que certains professionnels chevronnés m'ont appris que coucher ses idées sur le papier n'était pas une mauvaise idée. Parce que l'exposition Ramsès II, actuellement à la Grande Halle de la Villette à Paris, nous montre que les écrits restent, plusieurs milliers d'années en l'occurrence. Parce que le toucher désuet d'une feuille blanche comme celle qui me sert de conducteur a quelque chose de charmant. Et que les idées viennent souvent allongées à votre serviteur. Elles sont notées dans une note sur un smartphone, mais parfois et très souvent sur un bout de papier. Et parce que la voix délicate de cet auteur, compositeur et interprète est si douce à nos oreilles, écoutons donc William Scheller nous narrer les aventures de son carnet à spirale.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît.
J'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique.
J'ai un an fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond sans intérêt, des boules de gomme et des matins parfaits.
Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique.
Ton amour, c'est vrai, mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît.
Ça n'est pas croyable comme tout disparaît, mais tout reste grâce au digital, digital et végétal. Quelles sont les nouvelles approches et les nouveaux visages de la nature en ville? C'est ce que nous évoquons dans ce plateau Cité Verte Europe par le truchement de l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage Valor. Les podcasts seront disponibles sur radio.imo, radioterritoria.fr et puis sur les internets et notamment les profils LinkedIn de chacune et de chacun de nos intervenants. Marie-Laure Rollin, dirigeante des pépinières Javois, Pascal Goubier de Green Hill France et Hicham El Nakla pour la newsletter Daily Green et l'entreprise 420arbres.fr. www.radioscoop.fr. J'en profite pour remercier, ils sont à pied d'œuvre depuis très tôt ce matin, les techniciens des web radios, en l'occurrence Jason qui officie tout de suite et Baptiste qui était là ce matin. Merci à vous, c'est grâce à vous toutes et tous que l'on peut également émettre depuis ici même la frondaison, sous la frondaison des grands marronniers des Tuileries. Alors, nous avons eu le carnet à spirale de notre ami William Scheller, nous avons parlé conservation des données, agglomération des données, comment est-ce que vos outils, celui de 420 arbres, permet aux copropriétaires d'identifier le foncier disponible et de préciser les essences qu'ils vont pouvoir planter et faire planter par des professionnels du paysage référencé. Avec Pascal, nous avons vu comment, il y a 30 ans, le DOS permettait de tracer des points et éventuellement des lignes en noir et blanc et peut-être en couleur, et comment GRIIL aujourd'hui permet de créer véritablement des jumeaux numériques et d'agglomérer des connaissances, mais aussi d'en découvrir de nouvelles pour une bonne gestion et une bonne décision. Maintenant, ma question s'adresse à Marie-Laure Rolline, Madame la pépiniériste. Qu'est-ce que le digital change concrètement dans l'exercice quotidien du métier de votre entreprise et de vos équipes ?
Déjà, tout simplement, mon carnet à spirale, maintenant, il est digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est au quotidien partout pour échanger de la donnée. Ça, c'est un vrai gros changement de notre métier. Auparavant, oui, on avait un fax. Aujourd'hui, on peut intégrer de la donnée en production, l'exporter partout sous des formes aussi diverses que mon imagination laisse à penser. Il implique aussi beaucoup de nous de compétences et de connaissances aussi à intégrer, c'est-à-dire que on a besoin aujourd'hui d'experts sur du digital, sur de la gestion de bases de données, de data, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'est aussi un vrai super outil pour nous faire mieux connaître et mieux utiliser les grimpantes. On a par exemple notre site internet sur lequel on a construit un outil d'aide à la décision des grimpantes. Ben voilà, une grimpante, ça se fixe sur un support. Ben, la première des questions qu'on se pose, c'est ben, on le fixe sur quoi ? Eh bien, typiquement, on va avoir un outil qui va permettre de pouvoir associer les grimpantes au support par rapport au mode d'exposition.
C'est une arborescence en quelque sorte,
exactement.
Mais digital.
Tout à fait. Donc, il nous permet de nous aider vraiment très fortement dans notre quotidien au commerce, mais également en production. On pilote également nos productions au travers de ces outils digitaux, en croisant avec des données météorologiques, tout simplement. Ça nous aide énormément au quotidien, mais ça demande un niveau de compétence qui est un petit peu différent de celui de nos parents.
Vous parliez de l'orientation client. Comment est-ce que le végétal permet de guider et d'aider à la décision ? Je voudrais vous entendre tous les trois. On commence les questions à la cantonade sur les communautés. Et je m'adresse peut-être d'abord à Hicham avant que vous réagissiez l'un et l'autre. Hicham, nous nous sommes connus, je le rappelle, par Daily Green il y a bientôt 3 ans, lorsque vous avez sorti en newsletter ce qui était un blog depuis 2010 et en démarrant un compte sur les réseaux sociaux. Finalement, j'ai rejoint votre communauté. Mais mon sentiment, sans avoir fait d'analyse sur celle-ci, c'est qu'elle est bien différente du microcosme des acteurs de la nature en ville. Comment était-elle à l'origine et aujourd'hui, quelles sont les grandes catégories de population qui composent votre communauté de followers de Daily Green ?
J'ai commencé déjà par les amis, donc il n'y en avait pas énormément, mais voilà, ça a permis d'enclencher un peu la newsletter. Donc, plus concrètement, en fait, aujourd'hui, pour passer en fait un peu sur les corps de métier qui suivent la newsletter, ça va être des urbanistes, des architectes, ça va être des personnes qui travaillent dans les collectivités, dans les métropoles. Ça va être également des spécialistes du végétal de tout type et puis des personnes qui sont curieuses et qui s'engagent eux-mêmes dans les projets de végétalisation en tant que citoyen, en tant que citadin simplement. Quoi.
Quel que soit leur métier, quelle que soit leur appartenance. Aujourd'hui, c'est en quelques chiffres sur votre communauté, c'est combien de personnes
Alors on est sur une niche, on est autour de 1000 personnes avec un engagement... un taux d'ouverture assez élevé, autour de 60%.
Ce qui est assez excellent.
Voilà, et puis ça compte que les mails qui sont ouverts, en fait, il y a le relais sur les réseaux sociaux.
Oui, et là, c'est beaucoup plus vaste.
C'est beaucoup plus vaste. L'idée, c'est d'augmenter la communauté, mais vu qu'on reste quand même sur une niche, il est plus important de se focaliser sur les gens qui sont engagés, qui lisent la newsletter et qui repartagent.
Et d'ailleurs, pour moi, c'est peut-être pour vous également une preuve de la qualité. Les professionnels, je pense notamment à un de nos amis présidents de la FFP dans le sud-est de la France, avaient relayé avec énormément d'interactions l'un de vos posts présentant une vidéo extraite d'Arte. Et vous parliez des sources tout à l'heure, vous créditez à chaque fois, et ça c'est extrêmement important, et c'est très fair play, c'est normal, mais tout le monde ne le fait pas. Une vidéo qui montrait le cheminement de l'eau des racines jusqu'aux houppiers et aux feuilles des arbres. C'est une forme de reconnaissance quand des professionnels du métier prennent votre newsletter et la partagent en disant « regardez ».
Oui, tout à fait, c'est gratifiant, et puis... On sait finalement pourquoi on le fait, puisque l'intérêt c'est de vraiment partager au plus grand nombre ces solutions positives et ces solutions basées sur la nature qui pour moi sont de l'ordre de l'émerveillement bien souvent.
Marie-Laure et Pascal, qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui comme personnalité, comme avatar peut-être, des gens que vous ne connaissez pas qui interagissent sur soit vos profils personnels, soit sur ceux des entreprises auxquelles vous participez? Est-ce que vous voyez un élargissement? Est-ce que vous voyez un entre-soi qui se recrée sur les réseaux comme on l'a dans les réseaux physiques?
Alors, pour ma part, en fait, je ne saurais pas dire s'il y a vraiment des avatars de personnes. Ce que je trouve justement très, très intéressant dans ces réseaux, c'est l'ouverture et la très grande diversité de profils qu'on va pouvoir y trouver. Je trouve que l'innovation et le partage de vision, c'est ça qui fait en fait la richesse, la richesse de demain. Et ça, c'est permis justement par ces outils, par ces réseaux. Et j'ai envie de dire, plus il y a de diversité justement dans ces profils que je peux suivre, qui peuvent me suivre, plus on va ouvrir ce champ de vision, de regard. Et c'est ça, je trouve, qui est pour ma part une vraie grande richesse. Alors, il y a de la veille au quotidien, mais il y a aussi cette richesse de vision. Quelqu'un qui va habiter dans un immeuble, je ne sais, à Montpellier, il va avoir une vision très différente du végétal que la personne qui va voir son potager à la campagne, je ne sais où. Et puis un enfant, les enfants ne vont pas sur les réseaux, mais des personnes plus jeunes aussi, des personnes qui vont être encore à l'école, vont avoir aussi des approches souvent décalées. Et tout ça fait un pot-pourri que je trouve extrêmement riche intellectuellement.
On pourrait en faire des tisanes, mais c'est un autre sujet dont nous parlerons peut-être une prochaine fois. Petit clin d'œil à Antoine. Roline, pour ne pas priver de notre petit clin d'œil nos auditrices et nos auditeurs, Antoine Roline qui est votre époux. Pascal, quelle réaction vous avez par rapport à ça, sur les interactions justement avec les communautés et les nombreux individus, métiers, mais aussi personnalités à travers ces réseaux sociaux et le digital d'une manière générale?
Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ces réseaux, alors, notamment dans ces réseaux professionnels finalement, c'est justement la diversité, la largeur du panel touché. Moi, par exemple, je suis en train de changer de vie assez radicalement, hein, de passer... Tout le monde ne s'est pas désabonné des gens qui me suivaient. Donc, ça veut dire que des gens qui sont encore de mon ancien monde sont quand même intéressés par le nouveau dans lequel je me mets à parler plus. Donc, ce croisement, finalement, et donc on est bien dans le thème de ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire ce digital au service, finalement, d'un élargissement des connaissances plus globales autour d'un sujet qui est bien, in fine, en tout cas en ce qui me concerne moi, bien toujours orienté autour du végétal, est très intéressant. Et puis, c'est les rebonds qu'il permet, parce que ça permet du contre-pied, ça permet de rebondir sur des sujets. Moi, je m'en sers un peu de façon commerciale, c'est-à-dire que un maire qui annonce qu'il est tout content qu'il a planté des arbres, ben, pouf, lui met un petit mot en disant, ben oui, il faudra peut-être aller voir comment vous allez les gérer par la suite. Enfin, donc il y a aussi une espèce de spontanéité
et de facilité d'accès
et de ce monde-là qui est effectivement, notamment quand on commence à avoir des volumes finalement de gens qui suivent, qui sont assez importants, c'est vrai qu'il y a vraiment de l'interaction assez forte.
Alors on a parlé de recrutement quelque part, hein, ouais. D'attractivité, Marie-Laure, vous l'avez esquissé. Vous nous dites là, Pascal, que ça permet des rencontres, mais on peut se dire, je prends volontairement une position caricaturale, qu'au fond, faire des newsletters, montrer des images, nous immerge dans une nature virtuelle et nous sommes déjà déconnectés, on vit la fameuse déconnexion, extinction des expériences de nature, plus de rapports sensibles avec le vivant. Je parle d'une manière générale, la population, c'est documenté par les scientifiques Robert Pyle 1978 sur l'extinction de l'expérience de nature et ses conséquences. Hein, moins on vit connecté à la nature, moins on la protège. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas un risque à développer des prises de parole sur les réseaux sociaux et d'éloigner définitivement, notamment les jeunes, de cette nature et de l'expérience vécue en les immergeant encore plus dans des avatars ou dans une nature fantasmée ou réelle, mais en tout cas par écran interposé. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? C'est un risque ou alors c'est un combat d'arrière-garde et qui n'a pas lieu d'être ?
Ouais, je pense qu'il n'y a quand même pas photo. Il suffit d'aller faire l'expérience de la nature pour s'apercevoir de la différence quand même significative qu'elle peut apporter en termes de bien-être, d'apaisement par rapport à n'importe quel écran. Enfin, moi, j'ai fait faire l'expérience à mes enfants. Bon, ils sont grands hein, maintenant, mais voilà, il n'y a pas photo. Jamais ils se tromperont de débat. La question est plus, est-ce qu'effectivement, ceux qui ne la découvriront jamais et à qui personne ne peut le montrer, ça peut suffire ? Non, c'est sûr que non. Après, moi, pour prendre un peu le contre-pied, ben voilà, on se rencontre aujourd'hui, mais en fait, c'est par une première démarche virtuelle qu'on a eu ce premier contact. Mm-hmm. Moi aussi, Hicham, j'ai vu ce qu'il produisait, des grimes. Je dis, attends, mais je monte une nouvelle société. Ça vaudrait le coup que tu connaisses ce qu'on fait. Et en fait, on est en train de sympathiser et on va certainement avoir l'occasion de se revoir sur beaucoup de sujets et de s'apprécier dans des échanges tout à fait normaux sur une base d'un sujet commun et par une transmission numérique. Mais that's it.
That's it. Marie-Laure.
Moi, je pense que, enfin, pour ma part, je pense que c'est plutôt une vraie opportunité plutôt qu'un risque. On a une vision de notre métier, souvent, qui est éloignée de sa réalité. Et ces outils, en fait, nous permettent, nous, je suis pépiniériste, d'exprimer, de partager ce qui est notre quotidien, notre réalité. Et quand on parlait tout à l'heure de la transmission, de la formation, eh bien, c'est des super outils qui sont accessibles par aussi toute personne de tout âge, d'avoir cet accès, cette découverte de ce qu'est cette chance et cette richesse du végétal. Donc, je veux en être convaincue que c'est un vrai, et j'en suis intimement convaincue, que c'est un vrai outil, une vraie opportunité pour nous de faire découvrir ce que c'est le végétal.
Hicham ?
Oui, tout à fait. Je te rejoins à ce que tu dis, Pascal, et Marie-Laure également. Hein, je prends l'exemple de Dégrine. Je n'ai jamais autant rencontré de personnes intéressantes que par le biais de cet outil-là. Donc, pour moi, ça reste qu'un outil. Ensuite, l'expérience de nature, à moins que demain, on puisse diffuser des flagrances, des senteurs à travers son ordinateur pour relayer les odeurs qu'on découvre dans une forêt. Mmh. Ça me paraît compliqué. Après, voilà, ça reste un outil, faut le craindre, faut savoir le maîtriser et bien alerter sur le fait que ça reste qu'un outil et un média.
Alors en deux mots, avant de conclure, je voulais vous poser une question un tout petit peu plus personnelle, un petit peu plus intime. Vous avez dit que ce digital n'était qu'un outil, Hicham, qui permettait à la fois de rapprocher du sujet un certain nombre de citoyennes et de citoyens, mais aussi de professionnels de différents horizons, mais aussi de rapprocher ces professionnels entre eux. Nous en sommes la preuve aujourd'hui, puisque trois d'entre nous se connaissent par le digital. Vous avez parlé d'expériences vécues que rien ne remplace. Quel est, à chacune et à chacun, votre refuge de nature vivante ? Marie-Laure.
Mon jardin. Définitivement mon jardin.
Pascal.
La forêt, la montagne, voilà, loin du bruit de la ville et des moteurs. Et voilà. Mais il peut y avoir de la 5G ou de la 4G, c'est pas trop gênant. Mais...
Hicham.
Alors moi également, mais il y a un coin que j'affectionne vraiment, c'est le Vercors. Puisque voilà, j'ai grandi au pied du Vercors et à chaque fois je peux m'y retrouver. Enfin, c'est un moment de déconnexion tout en restant quand même connecté si besoin.
Eh bien voilà, nous avons pris ce petit bol d'air pur tous ensemble grâce au digital qui nous a reliés pour mieux appréhender le végétal. Et dans le moment présent, dans l'instant présent, nous allons continuer à déambuler dans ces jardins, dans le jardin historique des Tuileries, puisque nous étions en direct de Jardin Jardin aux Tuileries. Vous pouvez podcaster cet échange sur radioterritoria.fr et radio.imo et sur les réseaux sociaux, sur vos comptes, taguez Cité Verte Europe, taguez Valor et l'ensemble des intervenants. Merci à toutes et à tous d'avoir participé par ce dialogue à la fabrication d'une ville nature. Hashtag ville nature, qu'on se le dise. Merci à toutes et à tous ici même, spectatrices et spectateurs assidus, et à vous qui nous écoutez par les internets. À bientôt.
Merci.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.